Il est 7h24. L'heure de la revue de presse avec Thomas Cluzel, en pleine forme et bronzé.
Absolument.
Bonjour Thomas.
Bonjour Lucas.
On commence avec les suites du double attentat au véhicule Bélier en Espagne.
Oui, tout d'abord, il ne fait aujourd'hui pas de doute que l'attentat a été préparé pendant des mois, 6 mois, en croire ce matin El Mundo, à Alcanar, près de Tarragone, dans le sud de la Catalogne. C'est là que se situe visiblement la clé de cet attentat. Une maison y servait aux jeunes terroristes pour fabriquer des explosifs, plus exactement des bonbonnes de gaz qui devaient ensuite être chargés dans 3 fourgonnettes, lesquelles devaient être conduites dans plusieurs lieux, dont les Ramblas, mais aussi la Sagrada Familia. Sauf qu'une explosion accidentelle aurait provoqué la déflagration de la dite maison et ainsi obligé les djihadistes à perpétrer l'attentat sans ces explosifs. Quoi qu'il en soit, et contrairement donc aux premières informations, il semble bien que les meurtriers avaient l'ambition de causer des dommages bien supérieurs. Alors évidemment, la question à présent est de savoir comment les membres de cette cellule terroriste ont pu se préparer pendant des mois sans éveiller le moindre soupçon. Comment ont-ils pu, par exemple, voler, sans que cela ne se remarque, plus d'une centaine de bouteilles de gaz dans les stations-service avoisinantes ou chez des particuliers? Le chef de la police catalane le confirme dans les colonnes du quotidien madrilène. Les policiers n'ont jamais été alertés sur le moindre mouvement suspect autour de cette maison, devenue au fil des mois une véritable fabrique d'explosifs. Et pourtant, plusieurs journaux locaux, tels que La Vanguardia, mais aussi El Periódico de Catalunya, affirment que la CIA avait, elle, à plusieurs reprises, averti les autorités espagnoles de la dangerosité de supposés groupes terroristes dans la région et de la forte possibilité d'un attentat à Barcelone. L'une des raisons de cet échec des services de renseignement, précise à nouveau El Mundo, viendrait de ce qu'au moins 8 des 12 membres identifiés de cette cellule n'avaient aucun lien connu avec l'organisation État islamique, ni même aucun antécédent de radicalisation. Preuve que des jeunes peuvent se radicaliser de manière très rapide et extrêmement brutale, sans avoir jamais, par exemple, combattu en Syrie ou en Irak avec les soldats de Daesh. D'où cette question, cette autre question, comment de jeunes Marocains bien intégrés, qui fréquentaient des Espagnols, qui pour certains avaient un travail stable et surtout ne connaissaient quasiment rien de l'islam, ont-ils pu soudainement devenir des djihadistes disposés à massacrer des centaines d'innocents? D'après les policiers catalans, cette mutation serait due à un homme et un seul, Abdelbaki Essati, l'ancien imam de Ripoll, une bourgade du nord de la Catalogne, pas du tout d'ailleurs sur la carte du radicalisme en Espagne, mais d'où sont originaires 8 des 12 suspects à l'origine des attentats de la semaine dernière. Pour le grand-père de Younes, ce jeune Marocain soupçonné d'avoir conduit la camionnette ayant foncé sur la foule à Barcelone, pas de doute, la radicalisation de son petit-fils est due à cet imam marocain, confie-t-il dans les colonnes du Soir. Il a fait les choses de façon ordonnée pour sélectionner ceux qui allaient commettre les crimes, confie pour sa part un père de famille. Il a surtout choisi des jeunes, dit-il, des frères, issus de parents pauvres, souvent analphabètes et qui n'exerçaient aucun contrôle sur leur fils. Un autre voisin proche de la famille Younes soutient lui aussi, mais sous couvert d'anonymat, que cet imam a embrigadé des Marocains de Ripoll et planifié ses attentats. Et de préciser encore, il y a un mois, l'imam a pris congé de la mosquée où il prêchait, prétextant devoir se rendre au Maroc pour régler un problème d'héritage. Les policiers, eux, pensent plutôt que Sati s'est alors rendu dans la maison d'Alcanar pour participer à la fabrication d'explosifs et qu'il aurait péri sur place la veille de l'attentat à la suite d'une mauvaise manipulation.
Quoi qu'il en soit, Thomas, la trajectoire de cet imam est donc aujourd'hui au cœur de l'enquête.
Oui, les autorités soupçonnent d'ailleurs qu'il ne s'est pas radicalisé en Espagne, mais à l'étranger, au Maroc, en France et surtout en Belgique. L'imam Vilvoorde assure dans les colonnes du journal Le Pays que Essati lui a demandé un travail dans une mosquée près de Bruxelles, mais que lorsqu'il lui a demandé un certificat sur ses antécédents judiciaires, il ne lui a pas répondu. Et pour cause, Essati avait été arrêté en 2010 à Ceuta avec 12 kilos de haschich, à la suite de quoi il avait passé 4 années en prison avant d'être libéré, les autorités jugeant que son incarcération ne laissait entrevoir aucun signe de radicalisation. Et pourtant, précise ce matin le quotidien El País, c'est là qu'il a notamment côtoyé l'un des condamnés des attentats de Madrid en 2004. Désormais, conclut le quotidien, la question est donc de savoir comment un trafiquant de drogue qui a passé 4 ans dans une prison espagnole est devenu en qualité d'imam le cerveau d'une cellule terroriste sans que personne ne le remarque.
Autre grand titre de la presse aux États-Unis cette fois-ci, une collision intervenue ce matin entre un destroyer américain et un pétrolier près du détroit de Malacca.
Oui, 10 marins sont toujours portés disparus, 5 autres ont été blessés, rapporte The Washington Post. L'autre bateau impliqué dans la collision est un pétrolier, précise le site spécialisé spécialisé dans l'industrie, Marine Traffic. C'est le deuxième accident impliquant un navire de guerre américain en deux mois. Le 17 juin dernier, sept marins avaient péri dans une collision entre un destroyer et un porte-conteneurs. Enfin, sous couvert d'anonymat, un responsable américain précise que le bâtiment militaire impliqué dans la collision de ce matin s'était récemment approché de l'archipel très disputé des Spratlys en mer de Chine, où transite un tiers du commerce maritime de la planète. Autre titre de la presse américaine ce matin, selon un sondage pour NBC, dans trois états clés qui ont permis à Donald Trump de remporter l'élection, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, la popularité du président est en chute libre. Plus de deux tiers des sondés s'estiment embarrassés par la conduite de la politique du chef de l'État, rapporte le site de la chaîne CNN. Enfin, signe des dieux ou pas, Lucas, une éclipse totale de soleil balayera aujourd'hui les États-Unis d'ouest en est. Ce matin, 14 états seront ainsi successivement plongés dans le noir pendant 2 à 3 minutes. Mais, comme l'écrit ce matin The New York Times, l'éclipse est ce moment unique où de l'obscurité qui s'abat naît aussitôt un éblouissement.
Sans commentaire. Merci Thomas Cluzel. À demain. Il est 7h30.